VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a annoncé samedi qu'il pourrait révéler qui il aimerait voir lui succéder à la tête du pays. Le parti au pouvoir est profondément divisé au sujet du successeur de M. Mugabe. Emmerson Mnangagwa, l'actuel vice-président, fait partie des favoris, tout comme Grace Mugabe, l'épouse du chef de l'État. Grace Mugabe, âgée de 52 ans, le plus vieux chef d'État en exercice de la planète, déjà investi candidat de la ZANU-PF, parti au pouvoir pour l'élection présidentielle de 2018, a toutefois précisé qu'il reviendrait ensuite à son parti de prendre la décision finale. Le président ivoirien Alassane Ouattara, lui, a créé la surprise en déclinant la proposition des cadres militants de reprendre la tête de son parti, le Rassemblement des Républicains RDR, au terme d'un discours fleuve de près de 2 heures pour la journée de clôture du congrès du RDR. Il a proposé Henriette Diabaté, une des figures du mouvement. Elle a été ensuite désignée présidente du parti sous les acclamations. Le chef de l'État a été cependant désigné président d'honneur de son parti. Au Nord Kivu, seuls 10% des enfants possèdent un acte de naissance selon le dernier rapport de l'UNICEF. Une campagne a été lancée en collaboration avec la justice congolaise pour donner des jugements supplétifs aux enfants, surtout à ceux qui sont nés de viol, aux orphelins de guerre et aux ex-enfants soldats recrutés de force par les groupes armés. Plus de 1300 enfants recensés par l'UNICEF ont bénéficié donc de ce document important dans le territoire de Rutshuru, dans l'est de la RDC. Reportage, Charlie Kasereka.
Parmi eux, il y a des ex-enfants soldats, un phénomène très courant dans cette région qui regorge de plus d'une dizaine de groupes armés et qui recrutent souvent par mode d'enlèvement. Patrick, un pseudo donné à ce jeune homme de 16 ans pour sa protection, il est parmi ces enfants victimes, forcé de participer aux activités criminelles de la rébellion rwandaise des FDLR. Aujourd'hui, il a d'autres orientations, comme il vient de recevoir son document qui approuve sa nationalité congolaise. Il veut surtout continuer avec ses études.
Quand tu arrives dans ce groupe, on te donne directement un autre nom. J'ai été recruté de force dans la rébellion du FDLR. J'y ai passé 4 années, j'ai été blessé par balle sur mon œil. J'ai maintenant 16 ans et je veux continuer avec mes études et je pense que ce document m'aide pour prouver ma nationalité congolaise.
L'Organisation des Nations Unies pour la protection de l'enfance, UNICEF RDC, qui a facilité ses audiences et qui assure l'intégration sociale de ses enfants, se félicite et veut continuer pour aider plus d'enfants dans la même situation. Monsieur Ile-de-France est administrateur protection de l'enfance zone Est de la RDC pour UNICEF.
Pour le Nord Kivu, l'enquête qui a eu lieu en 2012-2013 a démontré effectivement qu'il n'y a que 7% des enfants du Nord Kivu qui avaient leurs actes de naissance. C'est un taux très très bas. Et donc, il faut effectivement qu'on puisse mettre en place des dispositifs qui leur permettent d'avoir des actes de naissance après les 90 jours qui sont prévus par la loi.
La cause principale de cette situation reste l'ignorance des parents, mais surtout la situation des conflits dans ces vastes territoires situés à plus de 75 km au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Le président du tribunal de paix de Rutshuru explique.
Depuis l'installation du tribunal en 2013 après la guerre du M23, les parents se sont plaints qu'ils manquent les actes de l'état civil. Les enfants qui viennent de bénéficier des actes de l'état civil aujourd'hui de naissance, ils sont au nombre de 1600. Oui, les enfants qui mangent entre 0 à 17 ans. Et c'est le travail qui vient de commencer. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de guerres ici à répétition.
La guerre, le chômage et l'absence de l'autorité de l'État dans certains coins de ces territoires a changé les modes de vie. Marie-Jeanne n'a pas revu son jeune garçon kidnappé depuis 4 ans maintenant, alors que la famille avait payé la rançon demandée par les ravisseurs.
On avait donné la rançon demandée, mais 4 ans aujourd'hui sans aucune nouvelle de mon fils. La situation a changé avec le phénomène kidnapping de voyageurs. Le mauvais état de la route, il n'y a plus de clients et beaucoup de gens ont abandonné leur champ suite à l'insécurité.
Les mauvais états de la route sur la nationale numéro 2 vient encore intensifier les problèmes et ne facilite pas les affaires pour ces vendeurs à la sauvette. Charlie Kasereka, depuis le territoire de Rutshuru, pour VOA Afrique.
Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a accentué sa mainmise sur le gouvernement lors du récent remaniement opéré par son premier ministre Youssef Chahed, qui doit obtenir aujourd'hui la confiance du Parlement à l'approche d'échéances électorales. La nouvelle équipe compte des hommes réputés de confiance du président et consolide la présence de Nida Tounes, le parti fondé en 2012 par le chef de l'État et qui avait porté Béji Caïd Essebsi à la victoire en 2014.
La La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le cap des 300 000 musulmans Rohingyas réfugiés au Bangladesh pour fuir les violences en Birmanie a été franchi en un peu plus de deux semaines, a annoncé l'ONU. Aujourd'hui, tout a commencé avec des attaques de rebelles Rohingyas contre la police birmane. C'était le 25 août qui ont déclenché donc une répression de l'armée. Bilan au moins 500 morts, la plupart des Rohingyas selon l'armée. L'ONU évoquant le double des morts. Les rebelles ont déclaré, eux, dimanche, un cessez-le-feu unilatéral d'un mois, le gouvernement birman répondant toutefois qu'il ne négociait pas avec des terroristes. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé aujourd'hui une enquête internationale sur l'usage excessif de la force par les autorités au Venezuela, estimant qu'il pourrait s'agir de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas la première fois que le haut commissaire s'en prend au Venezuela. À la fin du mois d'août, il avait jugé à l'occasion de la publication à Genève d'un rapport accablant sur la situation des droits de l'homme que la démocratie était en danger de mort dans ce pays. Il avait alors reconnu qu'il y avait eu au Venezuela une érosion de la vie démocratique qui doit être à peine vivante si elle est encore en vie. Et puis ici aux États-Unis, en Floride, plus de 3 millions de personnes sont sans électricité à cause des effets du cyclone Irma qui a balayé des parties de cet État avec des vents de plus de 200 km/h. L'ouragan s'est finalement affaibli alors qu'il avance lentement vers le nord, mais ces vents soufflaient malgré tout à plus de 165 km/h. Le cyclone s'est abattu tôt dimanche sur l'archipel des Keys, alors classé en catégorie 4 sur une échelle de 5. Dans la soirée, il menaçait Tampa et Saint-Pétersbourg. Nous avons joint un dans cette dernière ville où il s'est réfugié avec sa famille, le docteur Yves Renaud.
C'est un phénomène qui a créé beaucoup de difficultés, que ce soit à la côte est de Miami, que ce soit à la côte ouest. Ça va arriver bientôt du côté de Saint-Pétersbourg, mais on sent déjà les vents et ça va arriver aussi vers Tampa au cours de la nuit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de perte en milieu humain. Beaucoup de gens qui vivaient à Miami, pensant faire une bonne décision, avaient évacué du côté de Tampa ou bien du côté de Orlando. Il se trouve que le cyclone se dirige de préférence de ce côté-là. Même si on a des modèles cycloniques, le cyclone, lui, n'a pas de modèle, il n'avait pas demandé l'autorisation de signer un modèle de son parcours.
Vous parliez de Miami et des grues qui tombaient, mais vous disiez aussi qu'il n'y avait pas de perte en vie humaine.
Non, oui, exactement. On n'a pas eu de rapport à Miami qui a eu des pertes en vie humaine. Mais sur la côte ouest de la Floride, il y a eu malheureusement trois policiers qui apparemment emmenaient des prisonniers en sécurité. Le policier et une aide, je crois qu'ils ont perdu leur vie malheureusement dans un accident de voiture. C'est ce qui a déploré pour l'instant trois pertes en vie humaine.
Docteur Yves Renaud, joint par Idrissa Seydou Dia, c'était hier dans la soirée. La Corée du Nord a mis en garde aujourd'hui contre de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies en réaction aux tests nucléaires et tests de missiles de Pyongyang, disant que les États-Unis le paieraient très cher. Un porte-parole officiel nord-coréen a qualifié d'illégal la proposition américaine pour des sanctions supplémentaires contre le régime de Kim Jong-un. Et puis, la Birmanie, la commémoration aujourd'hui des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. 16 ans après, il y aura une cérémonie avec le président Donald Trump à la Maison Blanche à 8h40, heure de l'Est aux États-Unis, l'heure à laquelle le premier des quatre avions détournés par des terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé sur une des deux tours du World Trade Center avant que la seconde fût atteinte 23 minutes après un autre appareil. Monsieur Trump se rendra ensuite au Pentagone, attaqué et endommagé par un troisième avion. Le quatrième est lui tombé, vous vous en souvenez, à Shanksville, en Pennsylvanie, où est attendu aussi le vice-président Mike Pence. Et pour terminer ce journal, les députés britanniques se prononcent aujourd'hui pour la première fois sur le projet de loi gouvernementale destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen, en pleine polémique sur l'étendue des pouvoirs que ce texte octroie à l'exécutif. Baptisé « loi de retrait de l'Union européenne », il vise à abroger l'European Communities Act de 1972 qui avait marqué l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne et acter la primauté du droit communautaire sur le droit britannique. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal vous sera présenté par Henri Francisque. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine et à demain.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.